D'accord. Donc, on va procéder de la manière suivante. Vous allez faire une présentation de votre mémoire. Alors là aussi, faites une présentation comme pour quelqu'un qui n'aurait pas encore lu votre travail et D'accord. pour qui vous précisez un petit peu ce que vous avez recherché, les axes de votre travail, comment vous avez procédé, et puis peut-être un certain nombre de vos conclusions. Et puis après, on procédera à un dialogue sur les détails de votre travail.
Alors du coup, j'ai préparé un mémoire sur les publications papier d'œuvres numériques en libre lecture sur Internet. C'est-à-dire que je me suis intéressée à des œuvres publiées qui avaient, en version papier, qui au début de leur création étaient en libre lecture sur Internet, que ce soit sur des plateformes, sur des réseaux sociaux comme Twitter ou sur des blogs personnels. Ou sur des blogs personnels. Je me suis posé la question, qu'est-ce que la publication papier peut apporter à ces œuvres qui, d'une certaine manière, étaient déjà publiées sur Internet, puisque c'est un auteur qui décide de partager à d'autres personnes, à des lecteurs, un travail écrit qu'il avait fait. Donc, je suis partie de cette idée principale et j'en ai développé des problématiques un peu plus précises, notamment autour de le devenir de l'auteur en tant qu'écrivain. C'est-à-dire que pour moi, un auteur, c'est quelqu'un qui écrit de la littérature, que ce soit informatif, fictionnel ou autre. Comment il devient écrivain, c'est-à-dire quelqu'un qui est reconnu dans la société comme... comme ayant un statut vraiment d'écrivain, au sens de les grands écrivains comme Victor Hugo, Rousseau, ces personnes. Donc c'est vers cette problématique que je me suis penchée, et aussi je me suis interrogée sur la transformation de l'œuvre à partir du moment où elle passe d'un média numérique à un média papier. Est-ce que ça entraîne une modification sur l'œuvre, comme ça entraîne une modification présumée sur l'auteur sur l'auteur. Donc j'ai réfléchi à ça. Je me suis interrogée sur.
Je ferme la fenêtre. Non, peut-être il y a un peu de bruit dans ça.
Donc voilà, donc j'ai réfléchi à. Quelle était la particularité de l'écriture numérique, de la publication numérique? Pourquoi ça ne pouvait ne pas suffire à quelqu'un en tant que publication? Quelles étaient les limites de la publication numérique aussi, que ce soit les limites dans l'écriture, les limites dans la publication, dans la visibilité de cette publication, et aussi les limites par rapport à... la vision des livres qu'on a dans nos sociétés actuelles. Donc je me suis penchée sur toutes ces problématiques. Ensuite, je me suis intéressée à est-ce que le fait de publier son roman en version papier, est-ce que ça a changé quelque chose par rapport au roman? Est-ce que au niveau de la manière dont l'auteur le réécrivait, est-ce que ça faisait quelque chose? Parce que certains auteurs ont décidé de réécrire leurs œuvres par rapport à la première version qu'ils avaient mise en numérique. Ils l'ont réécrit pour une publication en papier. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de changer dans leur écriture numérique en sachant qu'il allait être diffusé sur un média papier? J'ai réfléchi aussi à ce que ça pouvait apporter pour les lecteurs. Et est-ce que justement, c'était pas par rapport aux lecteurs que certaines personnes pouvaient publier en version papier? Et dans une troisième partie, je me suis intéressée à la relation vraiment entre numérique et papier. Est-ce que le numérique, au lieu d'être un copier-coller finalement du média papier, ne pouvait pas être autre chose, voire même un complément du média papier? Puisqu'on dit beaucoup que, enfin, moi maintenant, mais à l'arrivée du numérique dans les années 2009-2010, on disait beaucoup que le numérique allait remplacer le média papier. Et ce qu'on voit bien, la plupart des œuvres numériques proposées sont des œuvres finalement qui ne sont qu'un copier-coller, de la publication papier. C'est-à-dire qu'on retrouve exactement les mêmes choses, voire même des fois les mêmes couvertures, seulement c'est sur un fichier numérique. Et moi, je me suis demandé si, comme là, ce qu'on retrouve finalement dans les œuvres que j'ai étudiées dans mon corpus, est-ce que le numérique n'est pas une... ne peut pas apporter des choses que le papier n'apporte pas. Et est-ce que avoir deux œuvres, une œuvre sur numérique et une œuvre sur papier, est-ce que ce serait pas quelque chose d'intéressant au terme de ça apporte des aspects différents, ça permet de toucher un public plus large peut-être, et ça permet aussi de lier des avantages qu'on retrouve dans le numérique à des avantages qu'on retrouve sur le média papier. Oui, je me rends compte que je n'ai pas du tout parlé des œuvres j'aborde. Je me suis appuyée, j'ai pas fait une analyse très détaillée, mais je me suis appuyée sur trois œuvres, principalement sur trois œuvres. Donc la première, ça va être la série de La Passe Miroir de Christelle Dabos, qui a été écrite sur... dans un premier temps sur une plateforme forum de diffusion d'écrits qui s'appelle Plume d'Argent, qui en fait c'est une plateforme qui permet de publier des écrits et de recevoir des commentaires de la part d'autres auteurs qui publient eux aussi sur la plateforme, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir critiquer quelqu'un si soi-même on n'a pas proposé un écrit. Donc c'est un peu du terme de donnant-donnant et voilà. Je me suis appuyée aussi sur le top fictif d'Éric Chevillard, qui est en fait un blog. C'est un auteur qui avait déjà fait des publications en papier, qui a écrit un blog et qui a décidé de chaque année publier une version papier de ce blog. Parce qu'il considère, enfin, il ne voit pas ses œuvres autrement que sur papier, mais il voulait profiter et expérimenter un peu l'écriture sur Internet. Et enfin, la dernière œuvre que j'ai utilisée, c'était La Quatrième Théorie, qui est un roman écrit par Thierry Crouzet, qui a été rédigé entièrement sur Twitter.
C'est la twitterature, voilà, passée sur papier.
Voilà. Donc c'est une nouvelle forme de littérature qui apparaît et qui en fait se sert d'un réseau social qui a une particularité, c'est-à-dire que sur Twitter, on a un nombre limité de caractères. Donc c'est... Et ça oblige à adopter des contraintes dans une littérature, donc la twitterature. Et donc Thierry Crouzet qui s'est intéressé à cette twitterature et qui a décidé d'écrire un roman entièrement sur Twitter. Donc de A à Z, il a écrit son roman sur Twitter. Et plus tard, au vu des retours qu'il a eus sur ce roman, il a décidé de le faire publier en version papier. Et avant cela, il a retravaillé son manuscrit, il a retravaillé certaines choses en abandonnant à certains moments cette contrainte des 140 caractères. Donc finalement, il a proposé une œuvre quelque peu différente de celle qu'il avait publiée sur Twitter, mais... il le dit lui-même, son écriture en a été... Enfin, le fait qu'il ait écrit dans un premier temps sur Twitter a donné un certain aspect à son roman. Et donc, je me suis intéressée à tout ça. Et j'ai pu en conclure que si la littérature médias numériques se développent de plus en plus. On a de plus en plus de personnes qui essayent de vraiment écrire sur le média numérique, pour le média numérique, sans penser à une édition papier. On a aussi, on a aussi une littérature qui commence à se développer sur le numérique, puisque c'est plus simple pour des auteurs qui n'ont absolument aucun lien avec le monde de l'édition. Ça permet à certains auteurs de proposer un contenu sans avoir finalement de réticence de par leur non-connaissance du milieu de l'édition. Donc on va avoir plus de personnes qui vont oser publier en version numérique, mais on peut voir que si plus de personnes osent publier en version numérique, il n'y a pas tant de personnes qui lisent sur support numérique. Donc, même si on a des lecteurs, le fait de ne pas avoir des lecteurs habituels, ça peut pousser certaines personnes à finalement ne pas se considérer comme écrivain. Surtout qu'en plus, écrire sur médias numériques, c'est quelque chose que tout le monde fait finalement, que ce soit par SMS, par message, par mail, tout le monde à un moment finit par écrire sur un média numérique. Alors que écrire sur un média papier, ça devient, en tout cas, écrire de la littérature vraiment sur média papier et le diffuser, ça reste dans l'esprit de tout le monde, quelque chose de très structuré, et ça s'inscrit surtout dans une histoire qui remonte maintenant à assez loin. Et donc, du coup, publier une œuvre en version papier, ça reste s'inscrire dans l'histoire de la littérature plus que publier en version sur médias numériques. Ensuite, c'est aussi une littérature qui va être qui va s'inscrire aussi dans un cercle éditorial très très bien construit qui a été qui a été testé, on va dire, enfin expérimenté, qui est quelque chose maintenant de bien rodé, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des codes, tout le monde connaît les codes. Ça, voilà. Alors que l'édition numérique est encore très brouillon. C'est un nouvel univers. Les personnes qui font partie du monde du livre, c'est-à-dire que ce soit les libraires, les éditeurs, les attachés de presse, les bibliothèques, tous ceux qui font partie de ce monde de la littérature, de l'édition, ne sont pas encore d'accord entre eux de ce qu'il faut faire de l'édition numérique, de quel et j'ai oublié de citer aussi les auteurs. Personne n'est d'accord sur la vision, enfin sur une vision commune de la publication numérique, alors que tout le monde est d'accord sur une vision commune de la publication papier. Donc, finalement, pour un auteur, publier son œuvre, même si elle a été rédigée et publiée une première fois en version numérique, enfin sur médias numériques, la publier sur médias papier, ça permet d'avoir une visibilité plus grande, d'avoir une publication plus soignée, en tout cas mieux acceptée, puisque j'en ai parlé dans mon mémoire, la publication numérique est encore beaucoup associée à l'auto-édition. Et comme l'auto-édition est assez mal vue, en tout cas pas très bien acceptée dans le monde de la littérature, ça reste une vision qui n'est pas très positive. Voilà. Et je pense que aussi publier une œuvre en version papier, ça pousse les auteurs à se sentir plus écrivains, dans le sens où ils se retrouvent avec un vrai objet, une communauté de lecteurs qui vont peut-être plus pouvoir
une œuvre,
rencontrer un vrai, voilà, voilà, une œuvre peut-être.
On passe du texte à l'œuvre et de l'auteur à l'écrivain.
C'est ça.
de cette manière-là.
Voilà.
C'est d'ailleurs un des critères, je crois, de Wikipédia pour créer la notice d'un écrivain. Il faut qu'il ou elle ait publié un livre papier chez un éditeur, à compte d'éditeur. Voilà, donc quelqu'un qui aurait publié en auto-édition ne serait pas considéré comme un écrivain.
En tout cas, je sais que dans la société des
la GDL, oui.
Voilà,
la GDL,
il faut absolument publier quelque chose à compte d'éditeur.
C'est le même critère, hein, donc voilà. Effectivement, vous avez raison.
C'est un critère qui est encore en activité.
Voilà, oui, non, mais tout à fait. Bon, ce qui veut dire, évidemment, toujours pareil, enfin, on fait toujours ces remarques-là, que Lautréamont ou Proust n'auraient pas pu entrer à la SGDL, au moins au début de leur carrière, enfin de la carrière de Proust. Mais bon,
c'est ça, c'est des critères qui existent, mais qui ont pour but d'évoluer quand on voit certains. Enfin, moi je pense, et justement, faire. Enfin, quand on voit certaines œuvres numériques, elles sont de qualité. Puis elles apportent quelque chose, elles ont des.
Les critères des éditeurs ne sont pas toujours seulement des critères de qualité, ça peut être des critères de commercialisation, de public.
De vague, si on voit bien avec la publication, surtout dans l'univers du young adult, dès qu'il y a une dystopie qui marche, pendant un an, on va avoir que des dystopies qui vont sortir.
Ce qui fait qu'on peut se dire quelque chose de qualité qui serait proposé à ce moment-là et qui n'entrerait pas dans le courant serait peut-être refusé. Puis,
et c'est pour ça que le numérique est aussi. Et c'est pour ça que moi je pense que le numérique est complémentaire du papier, puisque le média papier, c'est un média qui est encore très institutionnalisé. Et c'est un peu. On retrouve un peu la bataille des romantiques et des classiques, dans le sens où l'édition papier, il y a des règles définies, il faut rentrer dans ces règles, alors que l'édition numérique, c'est encore quelque chose de. Très jeune, en tout cas le média numérique est encore.
Il y a des
très
règles,
jeune.
Mais elles sont différentes.
Sont en évolution. Et surtout, en fait, la règle principale, c'est que si quelque chose est de qualité, il peut enfreindre les règles. Enfin, moi, c'est ce que j'avais. J'avais l'impression que.
Si on prend vos trois auteurs, là, est-ce que vous pouvez résumer la carrière de chacun d'eux? C'est-à-dire, quels sont ceux qui n'auraient pas écrit sans le numérique?
Alors.
Donc, Chevillard, ça n'est pas le cas.
Non, Chevillard, non.
Donc, vous pouvez préciser un petit peu, il avait publié
alors,
avant.
Il avait publié. Alors, je n'ai pas tous les titres exacts, mais il avait déjà publié deux ou trois œuvres avant en numérique. En papier.
En papier.
Principalement, en fait, des essais sur justement l'écriture numérique. Je crois qu'il avait publié un roman, mais je ne suis pas très.
D'accord, mais il était déjà auteur papier.
Mais il était déjà auteur papier. Et,
en revanche, Thierry Crouzet, c'est vraiment un auteur du numérique.
Oui, c'est vraiment.
Donc lui avait un blog d'abord.
Il avait un blog, mais je crois que Thierry Crouzet aussi avait écrit des essais.
Il avait publié un essai avant.
Mais en tout cas, jamais de roman. Non, Éric Chevillard, c'est sûr, il avait écrit des romans il avait publié des romans avant. Thierry Crouzet, aucun roman avant, un essai ou deux, je pense, en version papier. Mais effectivement, au niveau de la littérature fictive, il a commencé en version numérique, finalement, sur le média numérique. Mais avant d'avoir écrit la quatrième théorie, qui à l'origine s'appelait Croisade sur Twitter, il avait déjà fait des essais d'écriture numérique.
D'accord, je suis sur sa notice Wikipédia, là, puisque maintenant qu'il est publié sur papier, il a droit à sa notice Wikipédia. Donc, dans sa biographie, il a écrit des scénarios de jeux de rôle, vous le précisez dans votre mémoire. Mais
pas d'essais.
Je ne sais pas s'ils ont été publiés, si peut-être quand même, attendez. Il y en a un qui s'appelle l'affaire Jonathan Deluze, qui a peut-être été publié, parce qu'il y a un lien. Oui, j'ai l'impression que c'est une publication, ça. Hein. Donc, il a publié des jeux de rôle. Il était journaliste également chez Soft et Micro, PC Expert, etc. Donc, il a dû au moins publier des textes
d'articles.
Mais il continue d'écrire des romans. Simplement, on ne parle pas de la publication. Bon, d'accord, donc à vérifier, mais c'est quelqu'un qui avait déjà un rapport à
Oui,
l'édition, de toute façon.
qui avait déjà un pied dans l'édition.
Voilà. En revanche, Christelle Dabos,
La
voilà,
seule
c'est.
vraiment néophyte de tout ce système d'édition et de publication, c'était vraiment Christelle Dabos. Ça, elle, c'est une jeune femme qui avait un pied dans le monde de la littérature, puisqu'elle elle préparait elle se préparait pour passer les concours pour être bibliothécaire, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'elle avait un cancer. Elle s'est retrouvée hospitalisée et elle a pendant toute sa vie, elle écrivait elle écrivait pour elle. Par exemple, elle a écrit une fanfiction sur le monde de Harry Potter. Donc, elle écrivait beaucoup pour elle-même. Et quand elle a appris sa maladie, elle s'est retrouvée alitée pendant très longtemps. Et là, une de ses amies lui a dit, tu devrais publier, enfin, tu devrais partager tes écrits. Donc, elle a trouvé cette plateforme de partage d'écriture qui s'appelle Plume d'argent. Elle a décidé de publier ses œuvres, enfin, de commencer à publier ses œuvres dessus, notamment une qui s'appelle La Passe-Miroir. D'ailleurs, je crois que c'est la seule qu'elle a vraiment écrit
Sur le, sur, sur, sur ce site,
sur ce
d'accord,
site.
oui.
Donc, c'est la toute première qu'elle a écrit et au vu de l'engouement qu'il y a eu, elle a continué et elle a eu beaucoup de retours. Elle a beaucoup retravaillé cette même histoire. Je crois, si je me souviens bien de ses interviews, qu'elle a au moins publié trois versions
Trois
différentes
versions,
rien que sur
version en ligne, donc, hein, version en
sur
ligne, oui.
la plateforme Plume d'argent, des versions qu'on ne peut plus retrouver malheureusement. Donc jusqu'à la troisième version où la plupart de ses lecteurs sur le forum lui ont dit que ce serait bien qu'elle envisage une vraie publication puisqu'ils trouvaient que c'était de qualité. Elle a décidé de les écouter et de participer à un concours Gallimard pour le premier roman jeunesse. C'était en 2012 et elle a remporté ce
D'accord.
concours.
Donc c'est quand même pas le web directement qui lui a permis d'écrire, mais c'est un concours quand même ouvert aux jeunes auteurs
C'est
et elle
ça.
avait appris à écrire sur le web,
C'est
disons.
ça.
Hein, voilà,
Elle
c'est.
a, disons qu'elle a peaufiné son écriture.
Voilà, oui.
Elle a, avec les remarques, finalement, d'autres auteurs qui étaient
Oui.
aussi néophytes qu'elle, mais qui, finalement, comme on le dit, un regard extérieur
Mais qui se
toujours
sont
bien
entraidés,
apprendre.
donc finalement,
Voilà, c'est
qui
ça.
ont collaboré
C'est ça,
pour cette œuvre,
exactement.
d'accord.
Et donc voilà, donc elle a publié elle a, en tout cas, elle a publié là, à ce jour, trois romans de cette série La Passe-Miroir.
Et alors, ces caractéristiques, parce que je regardais là en même temps, sur Wikipédia, elle n'a pas de fiche auteur. En revanche, il y a un article, La Passe-Miroir, mais
Je ne savais pas qu'il y avait
elle n'a
fiche.
pas d'article comme auteur. Donc, c'est assez caractéristique, parce que c'est finalement la seule qui soit vraiment issue du
Oui.
web, enfin, dont personne encore n'a estimé nécessaire de faire un article sur elle, alors que son cycle de romans bénéficie d'un article assez long, d'ailleurs,
Bah,
avec.
surtout qu'elle a
Synopsis, liste des
plutôt, elle est
personnages.
plutôt, enfin, ça commence à prendre de l'ampleur
Oui. Mais c'est assez intéressant parce qu'on retombe sur
Ouais.
cette notion-là que vous avez abordée, celle d'auteur et d'écrivain. Alors, bon, Wikipédia est une encyclopédie un peu particulière puisqu'il faut que quelqu'un prenne l'initiative de faire la notice. Mais justement,
Ah,
personne ne l'a fait, alors qu'il y a une
voilà,
notice pour
ça.
Thierry Crouzet et pour Éric Chevillard, bien
C'est ça.
entendu. Oui. Voilà, alors un mot global hein, d'appréciation. J'ai beaucoup aimé votre travail. Vous avez réalisé donc un mémoire qui est très, très bien construit, très, très solide. Donc sur un corpus qui, on vient d'en reparler, qui est intéressant parce ça donne déjà une typologie des parcours des auteurs. Donc l'auteur déjà établi qui travaille aussi sur le web et qui publie ensuite intégralement, d'ailleurs sans les retoucher, les textes de ses blogs, un auteur qui est déjà plutôt dans le monde du jeu et qui par jeu aussi, d'une certaine manière, écrit un roman par tweet et qui ensuite en fait un roman publié sur papier.
Oui, lui, il est vraiment dans l'expérimentation pure et
voilà.
totale.
Et dans... puis une auteure de... Alors, c'est pas de la fanfiction, en fait, puisqu'elle ne réutilisait pas des personnages.
À la base, elle écrivait vraiment de la fanfiction.
Voilà, elle faisait de la fanfiction, et puis son œuvre s'est autonomisée.
Voilà,
et il y a eu quelques aventures comme ça dans le monde éditorial dans les dernières années, et elle a fini par publier son œuvre sur papier, voilà. Donc ça fait une bonne typologie, parce que les trois auteurs ont des parcours différents, et vous les avez étudiés. Alors, j'ai une petite insatisfaction, mais je vous l'ai écrite dans le retour que je vous ai fait là sur votre première version, c'est que vous n'êtes pas entré assez dans le détail des textes. Mais c'est peut-être l'objet d'un travail ultérieur, ou voilà... Votre mémoire est suffisamment riche de cette manière-là. Mais enfin, du point de vue littéraire, c'est dommage que vous n'ayez pas montré comment les auteurs avaient éventuellement fait évoluer leur œuvre. C'est un travail génétique, finalement, hein, comme on le fait habituellement sur les manuscrits, mais qui montre l'évolution des œuvres. Alors, vous en donnez quand même vous donnez des indications. Elles sont un peu globales. Et...
Disons que, en fait, pour Christelle Davos, c'était... Enfin, moi, en tout cas, avec mes bonnes notions d'Internet, je n'ai pas réussi à retrouver...
Vous n'aviez pas les outils pour le faire.
J'ai dû m'appuyer sur ce qu'elle disait ses interviews. Elle dit qu'elle a beaucoup retravaillé. Et notamment, elle dit... c'est ce qui est dommage, mais j'y ai pensé tard, donc c'était un peu tard. Peut-être travailler plus, j'aurais peut-être plus dû travailler sur le deuxième tome. Mais en même temps, ça aurait... C'était bizarre puisqu'elle l'a pas vraiment écrit sur un terme. Enfin, je crois qu'elle avait commencé un petit peu à l'écrire puisque je sais qu'elle a écrit toute la. Elle a écrit à peu près la moitié de ce qu'elle comptait faire de son œuvre sur Internet. Mais encore une fois, c'est dire, donc je sais pas jusqu'à quel point le tome 2 avait été un petit peu écrit sur Internet ou pas.
Une fois, c'est un travail en soi qui est assez complexe parce qu'il faut effectivement récupérer. Les œuvres originales, enfin les versions originales, il faut les comparer page à page pour savoir ce qui a été modifié. C'est un tout autre travail.
Ensuite, avec le problème que j'ai rencontré avec l'œuvre de Thierry Pozet, c'est que Twitter a changé sa politique, on va dire, il y a déjà 6 mois, et on ne peut plus remonter jusqu'au premier tweet d'un compte. Donc du coup, j'ai eu que la fin de Croisade. Et je me suis dit, dans la nouvelle version, j'ai un petit peu étudié comment il avait changé la fin. Mais encore une fois, c'est compliqué puisque déjà, quand il a écrit sur Twitter, il y avait des fautes d'orthographe, des fautes de syntaxe. Il y avait aussi le fait que finalement, ce qu'il a changé, c'est peut-être rajouter des mots.
Voilà, ce qui sera assez intéressant à étudier, mais alors si on voulait faire ce travail, en fait, il faudrait soit demander à l'écrivain lui-même ses archives. Il a dû garder ça quelque part s'il accepte qu'il y ait ce travail.
Enfin, j'ai regardé du coup, et quand on est propriétaire du compte, on peut demander les archives.
On peut revenir sur les archives, voilà. Ou alors trouver d'autres exemples de transferts que vous pourriez étudier parce que vous aurez tout, mais peu importe, encore une fois, là, vous avez quand même donné des indications suffisantes pour savoir comment ils avaient retravaillé les textes. Là, dans le cas de Crozet, ce qui serait assez intéressant, c'est de voir comment il a, d'une part, joué avec les règles de Twitter, donc pour faire des phrases courtes. Peut-être même qu'il a étalé des phrases sur 2 tweets, je ne sais pas, enfin, il faudrait vérifier.
En tout cas, de ce que j'ai vu de la fin...
Il a vraiment joué le jeu,
c'est-à-dire... Mais du coup, il faisait des phrases assez courtes.
Oui.
Mais il a gardé ça finalement dans sa version papier. Il a gardé cette idée de phrase courte, mais il prend plus le temps de. Il a rajouté des phrases quoi.
Oui, c'est ça.
Et parfois, par exemple, dans la négation, il va. Par exemple, je ne sais pas, au lieu de je sais pas sur Twitter, il va écrire je ne sais pas.
D'accord. Donc il y a de la réécriture stylistique. Peut-être aussi, ça serait intéressant de voir quelle est la part de phrases qui ont été allongées. Ou de phrases rajoutées, quoi. Enfin, bon.
Il a plus fait du rajout de phrases, finalement.
D'accord.
Comme je le dis, les seules fois où il a rallongé, enfin, en tout cas, de ce que j'ai pu comparer, les seules fois où il a rallongé, c'est quand il y avait des négations qui manquaient, ou quand ils voulaient vraiment appuyer un point, c'est-à-dire en rajoutant un terme en plus, c'était jamais...
Voilà, mais je voulais pas passer trop de temps là-dessus, effectivement, juste pour dire que là, il y a peut-être un... De toute façon, je pense que vous avez dû, comme toujours quand on fait un travail de recherche, rencontrer toutes sortes de sujets que vous auriez aimé développer davantage et que vous avez résumé, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que vous aviez quand même une problématique très précise et que vous avez vraiment suivi, et c'est ça qui est très intéressant dans votre travail, c'est donc de prendre ce cas un peu, comment dire, à contre-courant d'une certaine manière, hein, d'œuvres numériques qui viennent du papier, alors que vous l'avez rappelé, et puis vous en rappelez les différents termes, la grande peur de l'époque, c'est la mort du livre, la disparition du papier, etc. Donc on a l'impression que toutes les œuvres papier vont se transformer en numérique, mais quand on regarde dans le détail, en fait, il y a beaucoup d'œuvres numériques qui reviennent au papier. Alors pour toutes les raisons que vous avez dites, hein, j'y reviens pas, c'est-à-dire... C'est une forme de légitimation qui est encore très, très forte. Alors, encore plus forte en France, puisque l'édition numérique... Alors, j'ai entendu les derniers chiffres qui seraient plutôt autour de 6%, mais enfin...
Ça commence à augmenter.
Très clairement, ça décolle difficilement depuis des années.
Ça doit gagner... Enfin, depuis quelques temps, ça doit gagner 0,5%.
C'est en progression, disons. Hein, c'est tout ce qu'on peut dire, mais c'est une progression qui est très faible, surtout beaucoup plus faible que dans d'autres pays.
Mais surtout, on retrouve... Enfin, moi, ce qui m'intéressait aussi, et qui m'a conforté dans mon idée, c'est qu'on retrouve l'idée que les grands lecteurs de numérique sont des grands lecteurs papier et qui n'abandonnent pas l'un pour l'autre.
Ouais,
que
tout
vraiment,
tout à fait, hein.
En général, ceux qui lisent en numérique lisent aussi en papier. Donc...
C'est pour ça que je suis presque persuadé qu'une étude faite aux États-Unis, par exemple, où l'édition numérique est très développée,
ouais,
montrerait à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire que la légitimation se fait toujours par le papier et que simplement le numérique permet de vendre les best-sellers de manière plus commode, à des prix beaucoup moins chers d'ailleurs.
Ouais,
hein, aussi, c'est ce qui explique le peu de succès en France également, c'est la politique
libre,
de prix,
voilà,
des éditeurs. En revanche, la grosse différence, c'est qu'en France, justement, grâce à un certain nombre de réglementations, on a un monde littéraire beaucoup plus diversifié, dans la mesure où on a un réseau de petits libraires, les œuvres. Alors qu'aux États-Unis, je pense que ce qui se vend en numérique, c'est surtout les grands best-sellers, les auteurs déjà très connus. Mais s'ils sont très connus, il y a de fortes chances pour qu'ils soient connus déjà sur le papier.
Quelque part, je pense aussi que ce qui se vend le plus, c'est les livres un peu... les histoires un petit peu... On sait que ça n'a pas été... C'est pas du Proust ou...
Ah oui, la littérature...
La littérature un petit peu de plaisir, on va dire.
Roman sentimental.
Voilà, c'est ça.
D'accord, voilà. Oui,
science-fiction un petit peu pas trop travaillée. Enfin, bon, après, c'est peut-être que mon avis, mais...
Bon, voilà, ça mériterait de faire une étude dans un pays où le livre numérique fonctionne beaucoup mieux. Mais bon, voilà, là, encore une fois... On invente d'autres sujets de mémoire. On va s'en tenir au vôtre qui était déjà suffisant. Donc pour ça, vous avez pris ces trois œuvres qui vous ont servi simplement effectivement un peu d'exemple tout au long. Voilà. Vous ne les avez pas étudiées davantage que ça, mais ça vous a permis quand même chaque fois de vous appuyer sur des exemples très concrets. C'est très intéressant à la lecture parce que sinon vous auriez fait des généralités.
Surtout que les trois auteurs permettent finalement d'aborder... trois figures d'écrivains numériques différents qui commencent à se développer. C'est-à-dire l'écrivain qui ne jure que par le papier, mais qui teste un petit peu le numérique, qui est Éric Chevillard.
Oui.
L'écrivain qui est Thierry Crouzet, qui lui, par contre, est pour l'expérimentation numérique et considère qu'il y a énormément de choses à faire, énormément de choses à inventer. Et l'écrivain qui n'était qu'un auteur, qui ne faisait qu'écrire pour elle et qui finalement se retrouve à pouvoir finalement se définir comme écrivain puisque publié par... Mais grâce au numérique et grâce au fait que le numérique permet de rendre visible plus de personnes plus facilement, on va dire.
Voilà. Alors si ce phénomène est possible encore aujourd'hui, de toute façon, mais ça c'est... Malheureusement, je dirais le cas de tous les étudiants que je dirige, vous avez fait un mémoire qui va se démoder très vite, hein, évidemment, parce que vous faites une sorte de photographie d'un moment de l'histoire de la littérature, au moment où on était en train de passer du papier au livre. Donc ces transferts entre le numérique et le livre sont provisoires, il se passe. Mais c'est, en même temps, tous ces travaux marquent des moments de manière très intéressante, parce que quand on les relira dans 10 ans, on verra justement ce qu'était la situation, on pourra comparer avec l'évolution qu'il y a eu. Oui, alors il ne s'agit pas en plus de faire des prédictions. Vous voyez, alors vous, évidemment, à la fin, vous donnez votre avis aussi sur ce marché, sur la complémentarité, parce que je crois que c'est vraiment le maître mot actuellement. Il y a une complémentarité très forte. Et encore une fois, même dans les pays où le numérique a fait beaucoup de progrès, c'est à peu près moitié-moitié. Donc ça veut dire qu'il y a toujours cette complémentarité qui existe.
Là, c'est d'ailleurs chez eux qu'il y a le plus d'exemples d'œuvres numériques qui passent en papier.
En revanche, ce qui va changer sans doute, je pense, assez rapidement, c'est le pouvoir de légitimation du papier. Parce qu'il y a forcément un moment où, si le marché s'étend un peu, où le fait de publier sous forme numérique est une légitimation du même ordre que de publier sur papier.
Mais je pense aussi que c'est pour ça que le numérique marche tant aux États-Unis, c'est parce qu'aux États-Unis, la légitimation, contrairement en France, on est légitimé quand on s'inscrit dans un cadre, on va dire un petit peu... moi, je vois ça comme une grande institution avec des colonnes en marbre et tout ça. Vraiment, en France, on est légitimé quand on entre dans quelque chose qui est très réglementé, on est passé par des étapes très précises et c'est ça qui va nous légitimer. Alors qu'aux États-Unis, c'est quand même le self-made, c'est-à-dire si on a une œuvre qui retrouve énormément d'écho chez le plus grand nombre, c'est ça qui va légitimer la personne. C'est pour ça qu'à mon avis, le numérique marche plus là-bas. Je pense notamment à un podcast qui a énormément d'écoute sur Internet. Ils doivent avoir, je ne sais pas, 30 millions d'auditeurs, vraiment, qui est très...
Sur la littérature.
Sur la littérature, en fait, ça s'appelle Night Valley. En fait, je ne sais plus exactement le titre, je ne l'ai plus en tête, mais c'est en fait... un podcast qui raconte une histoire. C'est un peu comme c'est vraiment une fiction de science-fiction qui a été qui a fini par, au vu de son succès, qui a fini par être publié en version papier.
Night Vale.
Voilà, Night Vale.
D'accord. Non, merci de l'information. Voilà. C'est intéressant.
Donc c'est un podcast qui est énormément écouté à travers le monde.
Donc en fait, c'est une histoire qui est... Enfin, c'est comme une fanfiction, c'est écrit au fur et à mesure et on peut l'écouter comme ça, épisode par épisode.
C'est ça. Disons, oui. Et ça a fini par être publié en version papier. Alors, voilà, c'est même pas une écriture à la base, c'est juste oral.
Mais c'est écrit quand même, j'imagine. Enfin,
je pense qu'ils doivent l'écrire, mais après...
C'est un texte écrit avec peut-être un peu d'improvisation.
Voilà,
d'accord,
c'est ça.
Oui. Donc ce sont de nouvelles formes, parce que voilà, c'est un peu la question qu'on se pose aussi, mais ça fait partie aussi de l'état du temps. Vous voyez, dans les choses qui vont se démoder très vite, là je vois à la page 47, vous parlez d'un monde de la littérature divisé entre pro-numérique et ceux qui s'y opposent farouchement. Oui. Je pense que dans 10 ans, ça va nous faire sourire, quoi, d'imaginer qu'il y avait comme... moi je suis assez vieux pour avoir connu cette opposition entre les gens qui étaient pour ou contre la télévision. Je suppose qu'avant il y a eu des gens qui étaient pour ou contre le téléphone, mais enfin ce genre de, comment dire, d'opposition disparaît assez rapidement avec l'histoire, quoi, tout simplement. Et,
après ça peut rester dans l'histoire comme l'opposition entre les classiques et les romantiques.
Oui, voilà, ça peut être effectivement une époque, mais bon, il y a un moment où les choses n'ont plus trop de sens, quoi, enfin, à partir d'un moment. Et en particulier, donc, la question que je me posais aussi, c'est les nouvelles formes d'écriture numérique. Parce qu'au fond, là, les trois auteurs que vous avez étudiés, s'ils ont pu passer du numérique au papier, c'est parce qu'ils n'avaient pas utilisé les potentialités du numérique. Enfin, pas toutes les potentialités, au moins. Ce qu'ils ont utilisé, c'est l'aspect collaboratif, l'aspect mise à jour quotidienne pour les tweets en particulier. L'environnement du blog, disons, pour le dire rapidement. Mais ils n'ont pas utilisé des possibilités comme les branchements hypertextuels, le multimédia. Peut-être que là aussi, il va y avoir des évolutions de ce côté-là. Comment vous voyez les choses ?
Honnêtement, j'ai du mal à imaginer certaines œuvres numériques pouvoir passer sur papier. Je pense que le papier a quand même ses limites. Mais après, comme le faisait remarquer
Thierry Cousin,
exactement, il considère que sa version papier de la quatrième théorie n'est qu'un témoignage, quelque part, de tout le travail qu'il a fait en numérique. Donc, c'est en ça aussi qu'on peut parler de complémentarité. Est-ce que... et c'est aussi la réflexion qu'on peut avoir après en ouverture, c'est est-ce que l'œuvre papier doit être la même chose que l'œuvre numérique, ou est-ce que ça ne peut pas être voilà, on a l'exemple de d'œuvres papier qui ont des petites complémentarités en version numérique. Par exemple, dans la littérature jeunesse, on a par exemple des œuvres qu'on peut prendre en photo ou en vidéo et jouer directement avec les dessins qu'on a. Donc, en lisant le livre, on comprend très bien l'histoire, on n'a pas besoin de cet apport numérique, mais on peut l'avoir. Est-ce que la publication papier ne peut pas aussi avoir cet aspect de... par exemple, je pense à Ramalade, les étoiles. En fait, c'est on ouvre une page sur Internet, on a une petite introduction pour l'œuvre, et en fait, on va avoir certains mots qui vont être en lien hypertexte, c'est-à-dire qu'après, on appuie dessus, et on a d'autres, on a une écriture qui se rajoute. Donc en fait, c'est une œuvre vraiment qui se dévoile en cliquant sur des liens au fur et à mesure. C'est quelque chose qu'on ne retrouvera pas si on l'a en version papier. C'est impossible, à moins qu'ils s'amusent à faire des caches papier ou...
Plus difficile.
C'est plus difficile, voilà, c'est peut-être c'est... moins intéressant aussi. Mais est-ce que c'est pas aussi intéressant d'avoir une version papier pour des gens qui veulent découvrir l'œuvre sans forcément.
Mais ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est cette posture de Crouzet là, qui explique qu'en fait, son œuvre, c'est tout un ensemble
voilà.
En mouvement.
C'est ça.
Donc il y a eu des tweets, il y a eu des blogs, il y a eu des échanges.
Il y a eu des réactions, il y a eu des retweets.
Et une des versions de ce travail, c'est la version imprimée.
Voilà, c'est ça.
Donc en plus, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que ce qu'il cherche aussi dans le livre, c'est le fait de figer à un moment donné l'état. Parce que ça peut être un avantage hein, que le web soit plastique et éphémère, mais ça pose aussi des problèmes aux artistes parce qu'il n'y a pas un moment où on fixe comme ça le travail et...
Et c'est la même réflexion que vous avez eue par rapport à mon mémoire, il fixe une époque.
Oui.
Et bien là, la version papier, pour moi, fixe aussi une époque.
Voilà.
Et dans un monde qui ne fait qu'évoluer, c'est classique à dire, mais c'est vrai que des fois, on a envie juste de prendre une photo d'un instant
c'est,
précis.
C'est pour ça, enfin, vous avez peut-être trouvé ça très paradoxal, mais c'est l'institution qui nous oblige. Mais je vous ai demandé une version papier de votre. Parce qu'elle va être déposée et. Quel que soit enfin, ce qui se passe sur nos disques durs et sur le web, etc., il y aura toujours cette version qui va rester intangible. Et c'est la même chose que pour l'œuvre d'un auteur, c'est-à-dire que tout le travail que vous avez fait cette année, les lectures, les rencontres, etc., est fixé d'une certaine manière, mais ça, tout ce que vous avez fait avant n'est pas annulé.
Mmh.
Vous voyez, c'est-à-dire que c'est une partie de ce travail,
voilà, c'est
la version ultime.
C'est exactement ça.
Avec ce qu'il y aura après, je vous disais, peut-être que vous voudrez continuer à faire de la recherche sur d'autres questions, et ça manifeste un état, mais il est très important que cet état soit figé à un moment donné, et il n'y a que le papier pour le moment qui nous... Alors, on peut toujours faire des versions numériques, identifiées, avec un numéro de version, par exemple, et on peut dire que cette version-là ne bouge plus, mais c'est...
Mais
c'est
avec une version numérique, on a toujours envie de revenir, de changer un petit... Disons que dans une version numérique, on a toujours envie, dès qu'on voit quelque chose qui ne va pas, on a envie de le retravailler. Alors que c'est même... La plupart des artistes disent ça. Quand ils regardent leurs œuvres, ils font toujours « ça, j'aurais pu le changer, ça, je l'aurais fait ». Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de le modifier à chaque fois puisque... Enfin, si on peut continuer à modifier une œuvre toute sa vie et finalement...
Certains auteurs papier l'ont fait. Hein. Il y a des œuvres littéraires qui ont été modifiées comme ça par leurs auteurs tout au long de leur vie.
Mais au bout d'un moment, ça va s'arrêter, enfin, que ce soit un autre
oui, bien sûr, mais il y a toujours... Proust en est un bon exemple. Hein. une partie de son œuvre seulement a été publiée de son vivant, mais c'était un calvaire pour son éditeur, parce que chaque fois qu'il lui renvoyait des épreuves, il rajoutait d'autres détails, d'autres insertions, des morceaux de phrases, et une œuvre n'est jamais finie, à vrai dire.
Bah,
et il y a un moment donné où il y a cette coupure de la publication. C'est dans le secteur de l'édition ce qu'on appelle le bon à tirer. C'est-à-dire, il y a un moment donné où l'auteur dit, voilà, c'est terminé, je vous le livre, et ça va être livré au public dans cet état-là. Et c'est très dur pour les auteurs, parce qu'il y a un moment où on abandonne son œuvre, elle se sépare. Beaucoup comparent ça avec un accouchement, évidemment, parce que, avec Baby Blues, d'ailleurs, dans certains cas. parce qu'on a toutes sortes de regrets, évidemment, de pouvoir... relire certains passages en disant j'aurais pu les améliorer encore, ainsi de suite. Hein, voilà, c'est d'ailleurs amusant parce que je vous disais que je mettais en ligne les mémoires de mes étudiants et j'ai eu une ou deux interventions d'étudiants qui m'ont demandé de modifier leur. Parce qu'ils l'avaient relu quelques années après. Et dans ces cas-là, j'ai toujours refusé parce que justement, il s'agit de fixer un état. Certains, du coup, ont demandé à le retirer, tout simplement, mais c'est la seule possibilité dans ces cas-là. Alors que. Le web, lui, est très plastique et qu'on peut, comme ça, retoucher sans arrêt. Il y a d'autres auteurs qui ont eu des pratiques de genre. Là, François Bon, par exemple, a publié son blog Tumult. Il a choisi, lui, de le retirer de la version en ligne.
Oui,
quand il a publié chez Gallimard. Après, il a retiré la version en ligne parce
c'est
que
pour
là,
ça que
là aussi.
J'avais tout seul choisi Eric Chevillard qui, lui, a gardé.
Qui le garde, voilà.
Qui le garde en ligne. On pouvait faire une comparaison.
Voilà. Je crois qu'on pourrait le comparer aussi avec certaines pratiques de l'art contemporain, dans lesquelles les artistes font des performances, et il ne reste de ces performances que quelques traces. C'est le cas, par exemple, des artistes qui font du land art ou des emballages. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Christo, par exemple, ou du land art. C'est-à-dire, il s'agit... par exemple, Christo avait fait quelque chose qui avait assez marqué les esprits. Il avait emballé le Pont Neuf à Paris avec du tissu. Donc, le Pont Neuf a été entièrement emballé pendant quelques jours. Donc, c'est de l'art éphémère. Ensuite, c'est enlevé, évidemment. Mais ce que vend Christo, en fait, ce sont des photos de sa performance. C'est pareil pour tous les performeurs qui réalisent des actions spectaculaires. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça se réfère en art contemporain, la performance.
Oui, c'est donc, le happening. Un peu.
Voilà, c'est ça. Il n'en reste rien, sauf quelques photos, des enregistrements, des traces. Lorsque les performeurs, par exemple, laissent des traces sur une toile. Donc, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, l'œuvre papier, c'est la trace de tout un processus.
C'est ça.
Mais au fond, c'est assez proche des jeux de rôle dans lesquels a travaillé Thierry Crouzet avant, puisque dans un jeu de rôle, vous avez une sorte de brochure. Mais en fait, ce qui est intéressant pour les joueurs, c'est tout ce qui se passe autour de ce texte.
Oui.
Les interactions, tout ce qu'ils inventent même.
Oui, il y a un maître du jeu, il y a un scénario, et puis on peut s'en éloigner. Et le but du maître du jeu.
Et l'écrit n'est qu'une trace assez pauvre, finalement, de tout ce qui se passe. Mais enfin, si on voulait étendre un peu, on pourrait dire que toute œuvre littéraire est aussi une trace un peu appauvrie d'expériences humaines qui sont beaucoup plus riches et beaucoup plus larges. Là aussi, les écrivains se sont beaucoup exprimés là-dessus, sur le côté dérisoire pour eux, entre les émotions qu'ils ont eues et puis l'œuvre qu'ils ont laissée, qu'ils ont toujours trouvée insatisfaisante, insuffisante. Et
puis ceux qui critiquent... par exemple, dans les films, ceux qui critiquent quand on écrit d'après une histoire vraie, que ça fasse venir peut-être plus de gens, parce que
oui, voilà,
finalement, c'est pas vraiment la vraie histoire, c'est pas la vraie. Enfin, l'acteur n'est pas la personne.
C'est
et aussi que même si on invente une histoire, finalement, ça s'est peut-être déjà produit, on n'est juste pas au courant, en fait.
Voilà, il y a toujours une déperdition, de toute façon, dans le cas du numérique. Mais ça n'est pas... faire passer une œuvre numérique au papier, c'est un appauvrissement. Lorsque l'auteur numérique a utilisé toutes sortes de dispositifs, mais ça n'est pas sans exemple, là encore, dans l'histoire. Par exemple, quand la tradition orale a été fixée sur écrit, on a perdu la voix du conteur, éventuellement le fait qu'il chantait son histoire.
Puis n'importe quelle publication finalement, parce que comme vous l'avez dit, oui. Moi là j'ai pas publié, mais j'ai imprimé rendu public un devoir qui s'inscrit dans un an de recherche.
Oui,
donc,
c'est ça.
Et comme vous l'avez dit, j'aurais pu parler de tellement plus de choses. Et j'ai commencé à écrire sur tellement plus de choses, mais je ne les ai pas gardées.
Voilà,
de toute façon, la publication est un appauvrissement de tout le travail qu'on a fait. Mais en même temps, c'est un appauvrissement, mais c'est ce qu'on a jugé bon de retravailler et de parfaire pour le présenter.
De fixer et de structurer aussi. Parce que vous voyez, quand on écrit son mémoire, on structure. Parce qu'il y a d'autres manières de rendre compte de recherche. Il y a par exemple quelque chose qui se fait de plus en plus, c'est de publier un blog de recherche. Il y a un site qui s'appelle Hypothèse. Qui est dédié à ça, c'est-à-dire les chercheurs, au lieu d'attendre plusieurs mois avant de publier les résultats de leur recherche,
le font
au fur et à mesure. C'est une sorte de journal de bord d'un chercheur ou d'un labo de recherche. Et c'est une autre manière de publier sa recherche. Et puis il y a aussi les séminaires, par exemple. Vous avez vu comment le séminaire est organisé, c'est-à-dire c'est la recherche en train de se faire. Et il n'y a pas encore de publication, mais des chercheurs viennent expliquer ce qu'ils font en ce moment, comment ils travaillent. Vous auriez pu aussi, votre travail de recherche, le faire de cette manière-là. Vous l'avez fait peut-être avec votre entourage, simplement, rendre compte, comme ça, au fur et à mesure, de ce qui se passe. Dans un séminaire, on peut aussi... rendre compte de ce que l'on fait comme ça au fur et à mesure, mais il y a un moment donné où il faut le fixer sous une forme qui, en plus, vous l'avez rappelé tout à l'heure dans votre présentation, est une forme bien établie et connue. C'est important ça aussi, hein, le monde de l'édition, il a un fonctionnement qui est assez connu, la proposition du manuscrit, l'approbation du manuscrit.
Alors moi j'avais l'impression qu'il était connu, en fait, finalement, plus j'en discute.
Oui, pas tant que ça.
Pas tant que ça, c'est connu par le monde de la littérature. J'ai une amie, quand je lui ai dit que j'envisageais peut-être de travailler dans l'édition, elle m'a fait « qu'est-ce que c'est ?» C'est ceux qui écrivent les livres.
Non, mais c'est certain.
Et c'est vrai qu'elle m'a dit qu'elle n'avait jamais réfléchi à le moment où l'auteur écrit son livre et le moment où elle l'a entre les mains, elle n'avait pas vraiment fait...
C'est ce qui se passe dans les stages, d'ailleurs, c'est qu'on découvre un monde qu'on connaît que
c'est
par
ça.
La production... Mais enfin, on sait en gros que pour qu'une œuvre soit proposée, on connaît quand même, enfin n'importe quel lecteur connaît, les bibliothèques, les librairies,
oui.
Sait qu'il y a un éditeur qui a quand même sélectionné, choisi, présenté, diffusé l'œuvre, donc c'est quand même un monde assez connu. Dans le domaine du web, c'est beaucoup plus compliqué, effectivement. Mmh. C'est très difficile quand on accède à un site de savoir... est-ce que c'est un site sélectif ou pas? Vous donniez les règles, par exemple, de plume d'or. C'est-à-dire qu'on ne peut faire des commentaires que si soi-même on est inscrit et même qu'on a proposé des textes. Voilà. Donc, si on ne connaît pas ces règles, effectivement, on ne sait pas trop ce qu'on lit.
C'est ça. Et puis, ça permet de donner un aspect un petit peu sérieux à la chose.
Et de renforcer, voilà, ça c'est le... Après, je crois que ce qui va se passer, c'est que on va avoir d'autres instances de légitimation sur le web. Actuellement, l'instance de légitimation, c'est l'édition, la critique des journaux, le choix des libraires, enfin voilà, on a un circuit qui est connu. Sur le web, je pense que si je vois par exemple ce qui se passe sur les sites sociaux de type YouTube, etc., pour qu'une vidéo soit... deviennent célèbres, virales, comme on dit, ça n'est pas un éditeur qui l'a identifié, qui l'a choisi et qui la recommande. Ce sont des utilisateurs comme les autres qui vont d'abord la regarder, chaque fois ça rajoute une vue, et puis liker, et puis la partager. Et c'est comme ça que ça devient viral. Donc est-ce qu'il va se passer la même chose dans la littérature? Ça existe déjà, le bouche à oreille, hein, dans la littérature.
Il y a tout le système des booktubers que j'ai un peu...
Voilà, vous parlez aussi des booktubers, effectivement. Donc ces systèmes-là vont sans doute se développer, et à partir de là, il y aura d'autres instances de légitimation. Parce qu'un booktuber influent, par exemple, vous le dites, hein, c'est quand même quelqu'un qui arrive à faire connaître un livre. Et ce sera peut-être ça. Parce que comme la production va être décuplée, évidemment, hein, tout le monde pourra... En gros, il n'y aura plus le filtre éditorial. Sauf que l'éditeur va sans doute voir son métier se transformer. Et il va surtout fournir un label. Parce qu'actuellement, quand vous allez en librairie, que vous voyez qu'un livre est publié par Gallimard, vous savez que ça va être un livre qui va vous plaire ou pas, mais qui est un livre important, qui a été choisi par des gens à qui vous faites confiance, enfin,
oui,
etc.
Par exemple, si on voit les éditions Babel, on sait que ça va être un...
Voilà, un bon livre de littérature étrangère et vous pouvez faire confiance. Hein. Et c'est cette notion de confiance qui est très importante sur le web, que le web essaye de reproduire. Hein, sur tous les réseaux sociaux, il y a cette notion de confiance, c'est-à-dire qu'on est noté suivant, alors je pense là des sites de vente ou de location d'appartement,
oui,
hein, mais on est noté, mais là aussi c'est la même chose. Sur les sites de fanfiction en particulier, on voit très bien qu'il y a une forme de notation aussi qui se crée, c'est-à-dire quand quelqu'un a déjà produit des textes qui ont été très commentés, que les gens ont aimé, ça va donner une présence plus importante de cet auteur par rapport à d'autres et ça va reconstituer, je pense, des circuits de légitimation qui vont être assez intéressants.
Et même dans certains, bah là, dans Plume d'Argent, des fois, ils font des billets sur certains auteurs de leur communauté qui vont mettre particulièrement en avant par rapport à d'autres.
Voilà, la question va être de savoir à qui on fait confiance. Est-ce que c'est l'éditeur du site dont on a l'impression que c'est quelqu'un d'expérience qui va pouvoir choisir? Est-ce que c'est à des questions statistiques? C'est-à-dire une vidéo qui a été vue par 2 millions de personnes vaut certainement la peine d'être vue.
C'est ça.
Pas toujours le cas, mais ça marche comme ça, la notoriété sur Internet. Mais au fond, pour le livre, actuellement, c'est la même chose. Hein. Mmh. On se précipite sur Guillaume Musso et Marc Lévy, aussi parce que autour de nous, des gens le lisent et qu'on en entend parler, qu'on le voit chez tous les libraires. Et que,
surtout voilà. Qu'ils ont une production qui est assez soutenue.
Voilà, hein, tout à fait. Donc, il y a déjà des phénomènes de notoriété qui sans doute vont se reproduire. Très bien, bah écoutez, on va s'arrêter là, le temps est écoulé. Merci de vos explications.